Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Eh bien, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons parler d'un sujet qui est à la fois millénaire et qui est d'actualité encore aujourd'hui, comme l'est la parole de Dieu, comme l'est la Bible. Voilà, c'est une bonne nouvelle, toujours bonne et toujours nouvelle, même si elle a des siècles et des siècles d'existence. Alors, simplement, je voudrais présenter un peu la forme de notre réflexion particulière, mais les particularités, ça va aussi avec la personnalité du prédicateur. Il faut quand même le dire, c'est vrai. Autrement, ça serait vraiment triste si on avait tous le même sujet, on peut l'avoir. Ça, c'est certain. Mais bon, il y a des variantes, il y a quelquefois des lumières qui parviennent à certains, qui les présentent d'une façon. Alors, c'est surtout, faut pas. Le fond est important, la forme est secondaire, bien qu'elle ait sa raison d'être. Attention. La première partie, parce que notre sujet va se détermine en deux parties, j'ai titré la première partie « Ainsi va le monde ». J'aurais pu mettre un autre titre « Comment va le monde ?» Alors, je ne sais pas quel est votre avis. Comment va le monde? Il va bien, c'est formidable. Nous sommes presque dans le paradis. Mais j'ai marqué « Ainsi va le monde », parce que c'est quelque chose qui remonte aux temps anciens et qui n'a jamais changé et qui ne s'améliore pas. Ainsi va le monde. Et c'est ça ce que j'aimerais que vous puissiez être interpellés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour nous montrer dans quel monde nous vivons, tout simplement. Et nous parlerons, vous m'excuserez, mais j'aime bien l'histoire, moi. Parce que celui qui ne connaît pas l'histoire ne sait pas où il va. Il ne sait pas d'où il vient. Mais il ne sait pas non plus où il va. Vous connaissez la formule. Et nous allons parler, parce que la Bible, c'est un livre d'histoire. Enfin, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est notre actualité, on peut dire. Bien qu'on peut parler d'il y a 2000 ans. Et puis la deuxième partie, c'est assez curieux, parce que le monde est colossal. Le monde est puissant. Le monde est quelque chose qui fait peur. C'est redoutable, le monde, dans son histoire. Tout ne va pas toujours très bien. Ou plutôt, tout va mal depuis toujours. Et la deuxième partie, je voudrais vous parler d'une si petite pierre. Ça vous dit quelque chose? Dites-moi un peu dans quel livre on va ouvrir notre texte. Une si petite pierre qui va nous révéler les temps contemporains, les temps d'aujourd'hui. Et c'est un message d'actualité. Un nom, un prophète. Daniel. Alors allons-y. Daniel, chapitre 2, versets 31-33. Alors, prenez vos précautions, soyez bien assis, parce que on va voir que ainsi va le monde. Mais il faut commencer par là, de toute façon. Parce que notre histoire d'aujourd'hui ne serait pas... Elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu tout ça. Et c'est la Bible qui nous en parle. C'est les livres d'histoire qui nous en parlent. C'est les sciences de géopolitique qui nous en parlent. C'est très intéressant. Moi, je m'intéresse à l'histoire. Je m'intéresse à ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe là aujourd'hui. Eh oui, parce que nous faisons partie... Nous sommes une petite pièce, l'Église est une petite pièce, chacun d'entre nous, nous sommes une pièce, peut-être même une pierre, qui quelque part, eh bien, nous parle, et nous sommes en train de faire le temps. Et tout ça, Dieu est souverain dans tout ça. Alors Daniel, prophète Daniel, chapitre 2, verset 31. C'est Daniel qui parle à un grand roi. Un grand roi sur un empire qui s'appelle Babylone. Et Daniel, qui a une révélation pour expliquer un mystère au grand roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnosor, Enfin, si vous avez un enfant, un petit garçon, ne l'appelez pas comme ça parce qu'il risque d'être moqué. C'est un peu long. Et au verset 31, il est dit ceci. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ainsi va le monde. Retenez bien le titre. Nous avons dans les paroles et les pages de Daniel, du prophète Daniel, un avant-goût de l'Apocalypse. Il faut le dire. D'ailleurs, on l'a appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et c'est un résumé de l'histoire, l'histoire passée, mais l'histoire en projection aussi. L'histoire jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire peut-être, tiens, pourquoi pas pour nous ? Eh oui, pourquoi pas pour nous ? Et la révélation de cette statue vue par Daniel et expliquée au grand roi Nebuchadnezzar, c'est la vision d'une gigantesque statue d'une splendeur extraordinaire par l'éclat de ses matériaux qui le composent, ou qui la composent, cette statue. L'éclat des matériaux. Et on va développer tout ça. Elle est faite d'une tête d'or. Il y a une poitrine et des bras d'argent et un ventre et des cuisses d'airain. Et puis ça se termine, naturellement en bas. C'est vers la terre tout ça. Hein. Ça part de très haut et puis ça descend. Hein. Et ça se termine par des jambes de fer. Et enfin, des pieds en partie d'argile et de fer mélangés. Mêlés. Ensemble, le texte de la Bible nous dit « mêlé ». Or, cette réalisation, normalement, est vouée à subsister pour l'éternité. Statue. Dans cette vallée de Babylone, qui est en quelque sorte le berceau de l'humanité, on peut dire ça comme ça, toute cette Mésopotamie. Et nous nous apercevons que c'est une image trompeuse, je tiens à le dire. Parce que c'est splendide. Humainement parlant, pour l'humanité de l'époque et l'humanité, lorsque nous pouvons nous représenter ce que c'était, elle était gigantesque, cette statue. Eh bien, c'est une image mensongère. Une image de l'humanité qui est loin de ressembler à Dieu et au plan de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons lire au verset 34. On va continuer, si vous voulez. Je n'ai pas lu le texte, parce qu'on va le lire comme ça, avec le commentaire en même temps. Tu regardais au roi lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui resplendit sur toute la terre. C'est bien expliqué, hein ? Je trouve que c'est facile à accéder à la compréhension de tout ça. Il nous est bien dit qu'elles furent brisées ensemble. Ben oui, parce que tout repose sur les pieds. Et quelqu'un qui a une défection au niveau des pieds, et c'est pas seulement les pieds qui vont tomber, parce qu'ils sont déjà par terre. Mais c'est tout le reste qui va s'effondrer. C'est ça, hein. C'est pas commencé par la tête, mais dégradation. Et puisque le fondement, je vous l'ai dit, il est mensonger. C'est un mensonge. Alors automatiquement, tout va s'écrouler. Tout l'édifice de Babel, parce qu'il faut parler de Babel aussi, dans cette affaire. Eh bien, tout va finalement disparaître. Comme une balle qui s'échappe. Dans un coup de vent, on peut dire cela comme ça, Et il est question, et nous y reviendrons dans la deuxième partie tout à l'heure, il est question d'une petite pierre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle. Je rappelle, le visionnaire, c'est le grand roi Nebuchadnezzar. La tête d'or, on va en parler d'ici, on va faire un peu de détails. Et le prophète, c'est Daniel qui va donner l'explication secrète au monarque. Une simple petite pierre renversante. C'est un peu le slogan de Saint-Nazaire, hein, renversante. En ce moment, on le voit marqué partout. Hein, sur les châteaux d'eau, les choses comme ça. Hein. Ouais. Bon, c'est pour les touristes, ça. Hein. Petite pierre renversante, sortie, nous dit le texte, de nulle part. De droite, de gauche, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Septentrion, enfin bon, peu importe. On ne sait pas. Ça vient comme ça. C'est un secret, puisque c'est une révélation qui nous est donnée. La statue est composée de quatre parties distinctes qui représentent la puissance de l'humanité, la puissance mondiale des hommes sur la Terre. Depuis sa sortie de l'Éden, depuis la tour de Babel, depuis tous ces incidents ou accidents qu'a connu l'humanité, et elle a avancé à travers ce champ de ruines. Et l'homme se dit, je suis Dieu, je suis le grand Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme sur la terre. Et c'est un slogan que nous entendons encore aujourd'hui. Hein. Vous savez que là, il y a toutes sortes de sciences qui apparaissent, hein, l'humanisme, et puis vient d'autres choses, que les noms ne me reviennent pas, mais peu importe, vous savez, on en parle, hein, l'intelligence artificielle. Voilà, je vais retrouver un peu. Parce que moi, c'est pas artificiel chez moi, c'est tout à fait naturel. Et petit, hein. Mais bon, peu importe. Alors, la puissance mondiale est représentée dans cette vision, et elle a fait son chemin à travers des millénaires, jusque-là, au moment où il y a cette révélation, eh bien, par Daniel. Il y a quatre empires. Alors là, ce n'est pas des histoires, hein, c'est les historiens. Les historiens de l'Antiquité et les historiens encore d'aujourd'hui. Vous avez remarqué, il n'y a jamais eu autant de recherches archéologiques que dans notre monde, hein, depuis le 19e siècle, disons. Hein. On cherche partout, on gratte la terre, et on découvre des choses extraordinaires. On se dit, mais ils n'étaient pas bêtes à l'époque, hein, quand même. Et aller construire une pyramide ici, et puis... Hein, toutes les grandes merveilles du monde, les merveilles du monde, c'est les hommes qui l'ont fait. Hein. Alors, il y a là quelque chose, quatre empires opposés, et ces royaumes humains, ce sont des royaumes, et retenez-le parce que c'est important, hein, c'est la petite pierre dans le jardin des hommes, Israël. Et pourtant, c'est pas grand-chose, Israël. Quand vous y allez, ils ont été grignotés un peu par l'intérieur, par les côtés, etc., etc. Oh, il y a 6-7 millions d'habitants israélites, enfin, ou israéliens, pardon, excusez-moi. Et nous voyons que elles sont toutes en opposition au royaume de Dieu et au royaume d'Israël. Ça, c'est important de retenir. Ça fait partie d'une petite pierre parmi les autres. Mais bon, je ne veux pas dire qu'Israël, c'est la petite pierre absolument et qu'il faut retenir tout simplement. Vous verrez que la petite pierre, c'est quelqu'un. Ce n'est pas un peuple, c'est quelqu'un. Mais vous le connaissez, ce quelqu'un. Le premier empire qui apparaît dans la vision de Daniel a duré une centaine d'années. C'est relativement court. Hein enfin, oui, bon, à vue humaine, c'est déjà pas mal. C'était 100 ans environ, le maintien de cet empire très puissant. C'était un empire de prestige. Peut-être pour ceux qui ont un petit peu quelques notions d'histoire, les jardins suspendus de Sémiramis, à travers cette ville extraordinaire qui faisait 90 km de tour. Il y avait des choses extraordinaires. La porte d'Ishtar, par exemple, qui est au musée de Berlin actuellement, dans un musée qui est plutôt douteux par rapport à ses inspirations occultes. Voilà. Et... Babylone, c'est la tête d'or, Nebuchadnezzar. Et son empire de règne d'absolutisme. Pour un oui, pour un non, hein, voilà, vous dépassiez la vitesse de 5 km, retrait de permis de conduire, et puis couper la tête aussi. Oui, ça faisait partie. Voilà. Enfin bon, c'est des fantaisies. Hein. Royaume d'absolutisme et de gloire incomparable. Au verset 37, il nous est donné quelques petits détails, 37 à 38. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. » Donc, pour montrer l'importance. Le deuxième empire est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent. C'est-à-dire, après la tête, voilà, hein, toute cette partie du corps. Et cela, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Voilà, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui l'Irak, l'Iran. Voilà, hein, on pourrait dire ça. Parce que ce sont des vieux empires, hein, et qui subsistent encore aujourd'hui. À travers des rois, alors il y a eu des rois premiers, des deuxièmes, etc., les Cyrus et les Darius. Et ils ont fait une conquête fulgurante du monde connu d'alors, de l'Orient à l'Occident. Donc, ils partaient, et ils étaient alors vainqueurs partout. C'est un empire qui se caractérisait par des lois de grande exigence. On les appelait les satrapes, ils étaient gouverneurs de province. Et là, ce n'était pas des plaisanteries. Ce qu'on ne pourrait pas comprendre aujourd'hui dans notre monde de laxisme, et où on laisse un petit peu les choses se faire, hein. Quand on parlait de la loi des Mèdes et des Perses, ça ne plaisantait pas. Ça, c'est rien à voir avec nos codes de discipline et tout ce que l'on veut aujourd'hui. Il a duré 2 siècles de domination sur le monde. Le troisième empire, c'est l'empire qui représente le ventre et les cuisses. Ils sont en bronze. Vous savez que le bronze, c'est un matériau extrêmement dur. Le bronze. Et c'est la brillante civilisation d'Alexandre le Grand. Alors là, c'est pareil. Hein. Il a conquis encore beaucoup plus même que les Mèdes et les Perses. Et ils se sont distingués tout simplement à travers leur culture, leur sens artistique, et ça a duré 368 années. C'est déjà un peu plus long. 100 ans, 2 siècles, 368 années. Enfin, nous arrivons à quelque chose qui va nous intéresser beaucoup plus proche, puisqu'on en a encore des vestiges, même dans nos pays occidentaux, très marqués, très forts. Enfin, c'est l'Empire romain, qui lui, eh bien, a détrôné les deux premiers, mais ils se sont détrônés les uns après les autres. Et il a détrôné, tout simplement, eh bien, l'Empire grec. Et c'est pour ça que peut-être notre Bible a été aussi traduite dans le grec, parce que c'était la société, la civilisation la plus représentée à ce moment-là. Voilà. Alors, l'Empire romain, qui a duré 500 ans. Eh oui, et ça, on en a les preuves, on l'a appris à l'école, hein, grosso modo, mais on l'a appris. Et on en a les vestiges encore aujourd'hui. La France, la société, la civilisation gallo-romaine, c'est encore des choses dont on a les vestiges, hein, et qui font finalement, eh bien là, la renommée de certaines régions de notre pays. Avec une originalité, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bronze, mais c'est un alliage tout à fait, alors on se dit, mais comment on peut mélanger les choses? C'est une originalité, l'Empire romain, c'est un mélange avec des pieds d'argile mêlés de fer, et ça nous laisse entrevoir les premières traces de notre monde occidental. Voilà, les Romains vivaient il y a 2000 ans, et nous voyons aujourd'hui, d'ailleurs on en parle communément en géopolitique, dans l'histoire, dans la géographie, hein, le monde occidental, voilà. Monde occidental, c'est-à-dire l'Europe, entre autres. Bien sûr, il y a, après on va reparler hein, de ce qu'il y a de l'autre côté, mais ça ce sont des extensions. Je pense à l'Espagne avec l'Amérique latine, les Anglo-Saxons avec l'Amérique du Nord, enfin bon, toutes sortes de choses comme ça. C'est-à-dire l'Europe, parce que l'Europe a sa place. Et même dans la distribution, dans le livre de la Genèse, des tribus, etc., etc., il est déjà question. Finalement, je ne sais plus, un des fils de Noé, c'est bien cette situation donc, de l'Europe. Et sa place, et son rôle dans notre civilisation avant Moyen-Âge et post-Moyen-Âge. Voilà. Et depuis que les Romains sont venus, ils se sont fait évacuer, ils ont perdu avec les barbares, hein, qui sont venus d'Extrême-Orient, etc. Après, il y a eu une autre civilisation qui est née. Mais qui est née finalement eh bien, de l'Empire romain, en quelque sorte, et que l'on appelle les temps modernes. On pourrait le dire comme ça, je le traduis avec des mots simples, hein, tout simplement. Alors, on va reprendre le texte de Daniel 2, 31 et verset 35. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, de splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête, le corps, le ventre. Et puis là, nous arrivons à ce que nous avons terminé il y a un instant, c'est-à-dire eh bien, les pieds mêlés de fer et d'argile. » Je prends encore un texte dans Romains chapitre 9. Vous suivez ou je vous le rappelais. Et c'est là où nous allons introduire notre petite pierre. Écoutez bien, Romains chapitre 9, et à la fin du verset 11, je crois, ou verset, pardon, 32. Il est écrit, voici, je mets en Sion, en Israël, si vous aimez mieux, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est positif. Mais celui qui ne croira pas en lui sera confondu. Il ne sera pas confus, parce que finalement, il aura mis ça dans l'espérance du plan de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi va le monde. Alors, j'ai fini la première partie maintenant. On va voir la deuxième. Jésus-Christ nous enseigne dans l'évangile de Marc, de Luc et de Matthieu, surtout de Matthieu, sur les temps à venir. Et il nous dira bien, et il nous dit encore aujourd'hui, pour ceux qui perdraient un peu la raison, et qui serait parti déjà dans les étoiles. Je sais qu'on va bientôt aller un petit peu partout dans le cosmos, mais attention, vous n'en connaissez ni le jour ni l'heure. Vrai. Nous avons besoin d'être exhortés à travers ces paroles de Jésus à l'observation de l'histoire, des nations, des peuples, et à la vigilance. Priez et veillez parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas autre chose que ce que l'Église, que la Bible a bien voulu nous révéler. Et ce n'est pas la peine de spéculer. Il est parlé, Jésus nous parle de soulèvement. On est tranquille en ce moment. Il n'y a plus personne autour des ronds-points. C'est bien. Nous sommes abreuvés, et quelquefois ça donne le tournis, dans les informations que nous pouvons avoir, la presse écrite ou la presse audiovisuelle ou tout ce que vous voulez, de menaces perpétuelles. Mais sont-elles réelles? Ne joue-t-on pas avec, finalement, certaines choses? Il y en a qui sont réelles et on ne nous dit pas. Race contre race, nous dit Jésus. Mais avec la colonisation, c'est tout ce qui s'est passé depuis le 16-17e siècle, avec la conquête d'Afrique et toutes sortes de choses. État contre État, bloc contre bloc, empire contre empire. Vous avez remarqué en ce moment comment ça se passe? Il y a là cet affrontement qu'il y a entre deux grands empires, c'est-à-dire une partie libérale et une partie despote et tout ce que vous voulez. Et c'est pour changer le monde. À celui qui sera vainqueur, il aura la maîtrise du monde entier. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il y en a beaucoup qui ont essayé et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi. Je dirais, quelque part, comme le dit le livre des Proverbes, me semble-t-il, ou l'Ecclésiaste plutôt, rien de nouveau sous le soleil. Parce que nous ne pouvons juger ce que nous vivons dans l'espace de notre petite vie. 50 ans, 70 ans, 80 ans. Nous, on a un membre de notre famille. Elle est décédée, l'enterrement était hier, à 105 ans. C'est pas mal, hein? Eh oui, c'est cette personne qui a élevé ma belle-mère. Hein? Enfin bon, vous le dites pas, c'est pas la peine. Hein? La Bible raconte, figurez-vous, l'histoire du mal entre les hommes. Elle nous parle du bien. Elle est là pour prendre la contrepartie, en quelque sorte, l'interface, c'est-à-dire, eh bien, à travers ce que les hommes sont capables de faire en bien, mais ce qu'ils sont capables surtout de faire en mal, et qui a toujours, à travers tous les temps, défrayé la chronique, hein, faut bien le dire. Et ça, c'est le plan de message. Je rappelle les empires antiques. L'Égypte, qui a touché particulièrement Israël. 430 ans d'esclavage, c'est pas mal. Hein. Et vous savez comment ça finit, je vais vous en toucher deux mots. Babylone, les Mèdes et les Perses, l'Empire grec et l'Empire romain. Et j'aimerais en deux mots vous donner quelques petits exemples de l'histoire des petites pierres dans la Bible. Eh oui, c'est pas des calculs rénaux, hein. Pour ceux qui ont déjà goûté à la chose. Non, non, la petite pierre qui quelquefois fait tant souffrir naturellement, hein. Mais là, c'est une pierre de salut. Pour les uns, et puis le contraire pour les autres. Vous savez que l'Égypte, ce grand empire de l'époque, a capitulé devant un homme de Dieu, Moïse. Et on peut dire qu'ils ont bu la tasse, hein. Si on peut dire. Goliath a été terrassé par David, le petit David, le dernier de la famille, le petit garçon blond là qui était mignon comme tout, mais il avait quand même une fronde alors que l'autre était super garni de protection et tout ça. Il est tombé. Le pauvre Goliath, il en a perdu la tête. Il ne l'a jamais retrouvé, d'ailleurs. Nous avons des juges dans la Bible. Moi, je pense à deux, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a Gédéon, qui, lui, il a fait une chose extraordinaire parce que Dieu lui avait demandé. Tu prends des pots, tu mets une lumière dedans et tu agites tout ça. Et c'est toute une armée qui a été complètement décimée. Lisez le livre des juges et Gédéon. Vous allez voir, vous allez vous régaler, parce que si vous essayez de faire ça chez vous, vous allez voir que les gens, ils vont vous regarder. Hein. Avec des clochettes et toutes sortes de choses. Il y a Samson. Oh, Samson, il n'était pas recommandable. Mais Dieu s'est quand même servi de lui pour écrouler le temple. Je ne sais plus de quel dieu, mais il avait retrouvé ses cheveux. Alors surtout, ne vous faites pas couper les cheveux. Et si vous êtes chauve, faites-vous des implantations. Hein. Pour être fort. Voilà. Alors, vous avez Samson aussi, qui a pris les poteaux du temple, je ne sais plus duquel, mais toujours est-il qu'il a tout écroulé par une force surhumaine. Ouais. Baal, sur le mont Carmel, a quand même évincé 430 ou 450 prêtres de Baal. Et c'était Élie qui l'avait fait, un seul homme, une petite pierre, des petites pierres, nous pourrions dire. Esther a sauvé son peuple qui était en esclavage dans le royaume d'Assuérus et à Suse. Et nous voyons que une seule femme, oui, il y a des hommes, mais il y a des femmes aussi, hein, et elle a pu finalement sauver la vie de milliers de juifs qui étaient, voilà, une personne, petite pierre également. Et quand les petites pierres chamboulent l'équilibre et l'ordre du monde, c'est ça ce qui est étonnant. Nous, nous croyons à cela. Nous croyons pas que c'est la force, que c'est les canons, que c'est les chars, que c'est les avions, que c'est les missiles. Non, nous croyons qu'il y a un Dieu qui cherche toujours les choses les plus insignifiantes, qui cherche les choses les plus simples pour véritablement bouleverser l'ordre du monde. Quand Jésus est venu, un simple bébé, né dans une crèche, pauvre, déshérité, avec des parents qui étaient complètement démunis de tout, eh bien c'est ce petit qui a sauvé le monde. Jésus. C'est toute une histoire. Alors, attendez, c'est pas fini. Ça va, je vous dérange pas? Non, vous le dites, hein. Parce que moi j'arrête tout, moi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette surprenante et mystérieuse intervention d'un autre monde? Eh bien, c'est notre foi qui nous fait accéder à cela. C'est parce que nous le croyons. On passe pour des fous, on passe quelquefois pour des cinglés. On se dit, mais ils sont tombés sur la tête, hein, hein, comme dans les histoires de l'Évangile, où à travers une simple parole, voilà, les morts ressuscitent, l'eau est changée en vin, et puis toutes sortes de choses. Une petite pierre inattendue. Et c'est ça notre force. C'est ça la force de l'Église. C'est pas la nôtre, c'est celle de notre Dieu. C'est l'explication de la statue gigantesque qui s'effondre, associée à notre monde contemporain. Nous en venons à notre temps d'aujourd'hui. C'est intéressant de le savoir. Parce que les nouvelles puissances dominantes et leur hégémonie colonisatrice. Ça fait depuis le XVIe siècle, enfin le XVIIe siècle, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails. L'Europe, le monde civilisé, le monde occidental, qui a eu différents régimes, hein, que ce soit la royauté absolue ou que ce soit la démocratie, comme on a connu, enfin bon, voilà ce que l'on sait, hein, se sont mis finalement à conquérir le monde entier pour aller chercher les richesses et les prendre chez les autres. Dans le monde entier, hein, toute la Terre y a eu droit, hein, à travers quelques pays. Bon, la France, c'est pas un grand pays, l'Angleterre, c'est pas un grand pays, mais une conquête du monde entier. Et il y a eu des sommets de... finalement de gloire. Moi, je pense au Royaume-Uni, sous la reine, comment elle s'appelait, pas la dernière, mais l'avant-dernière, là. Ah, Victoria, bah oui, je la connaissais bien, mais j'ai oublié le nom. Hein. Mais bon, une chose qui est certaine, c'est que c'était, il n'est dit que le soleil ne se couchait pas sous l'Empire britannique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais on n'y allait pas pour faire du tourisme à l'époque. Hein. On y allait pour aller chercher toutes les richesses que ces pays disposaient, qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils étaient assis ou couchés sur des trésors. Et puis, on se les a ramenés nous-mêmes. C'est ce qui a fait la prospérité, finalement. Et puis, j'en passe, c'est des meilleurs, hein, parce que, voilà. De l'Empire romain germanique, c'est-à-dire après la chute de l'Empire romain politique. Donc, qui a été, à un moment donné, décadent. Parce qu'il faut dire que l'Empire romain germanique s'est terminé en 1800, au moment de Napoléon. Hein. Voilà. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc, cet empire décadent va faire naître des nations rivales et puissantes à la conquête du monde connu d'alors. Nous, la France, alors je ne veux pas faire de politique, mais nous, la France, on a mis notre nez dans des choses qui nous ont coûté des vies de nos soldats, de nos armées, toutes sortes de choses, au profit finalement eh bien, d'une la monoclatura, on peut dire, d'une certaine classe. L'Angleterre, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Espagne, ils ont mis la main, et le Portugal, ils ont mis la main sur toute l'Amérique latine. Eh oui, et quand on sait les richesses qu'il peut y avoir. Hein. Les Pays-Bas, on conquiert l'Asie, Philippines, etc., et puis voilà, Bornéo et toutes sortes de choses. Le Nouveau Monde a été découvert aussi, le Nouveau Monde américain, le Nord et le Sud, l'Extrême-Orient, les empires centraux de l'Europe. Je pense à la Prusse, je pense à l'Autriche, et à tous ces dépendants de tout ce cœur même de l'Europe. C'était des empires glorieux, hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. La Russie, tiens, elle apparaît. Elle a toujours été véritablement à la conquête. Vous savez que quand vous allez en Russie, vous prenez le transsibérien, faut bien vous dire que vous en avez pour 10 à 11 jours hein, à faire du train. Voilà. Après, vous n'allez plus dans les parcs... vous savez, les montagnes russes, là, c'est plus la peine, vous avez eu votre compte. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout ça, ce sont les Babels qui sont encore d'aujourd'hui, elles sont encore sur pied. Les Babels et ces cathédrales de confusion politique et religieuse. Parce que ça marche ensemble. Ouais, politique et religieuse. Ces grands courants conquérants et ces idéologies anti-dieu. Si vous voulez vous en convaincre... La doctrine soviétique, c'était pas tout à fait ça. La doctrine capitaliste, c'est pas ça non plus, parce qu'on a remplacé le dieu dont on connaît le nom, mais on lui a donné un autre nom, Mammon, les richesses, l'argent. Alors, ces idéologies anti-dieu, à chacun son symbole. Vous savez que le symbole de la Russie, c'est l'ours qui écrase. On en voit aujourd'hui. Hein, l'ours qui écrase, il perd, mais il va essayer de rattraper, d'une manière ou d'une autre. Les USA, c'est l'aigle. Quand vous allez à New York, à côté des tours qui se sont effondrées, il y a un monument immense avec un aigle extraordinaire. Domination universelle d'aujourd'hui, hein. L'Europe, c'est de la mythologie grecque. C'est la Vierge et le taureau. Europe, c'est le nom d'une jeune fille. Qui, est-ce que je dois le dire? Qui se fait violer par un taureau. C'est sordide. L'Asie, c'est le tigre et sa vélocité. L'Asie, c'est le tigre. C'est-à-dire ses ruses, ses assauts, la vitesse à laquelle il se déplace pour tomber sur sa proie. Et puis, il y a le continent africain qui reste un peu sur le côté. Mais lui, il est pourvoyeur, finalement, d'esclaves. Et il est l'emblème du lion et de l'éléphant. Alors bon, j'en dirai pas plus. J'ajoute ceci par rapport à ce nouveau monde dans lequel on est. Mais vous pouvez vérifier tout ça. Hein. Vous avez Internet, vous avez des livres qui vont vous renseigner sur tout cela. Hein. Moi, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui et je me régale à faire des petites études. C'est vrai que ça peut être intéressant. Maintenant, je peux en faire quelque chose d'absolu. Hein. Moi, je reçois une pensée et puis on la partage ensemble parce que ça fait partie quand même de la culture biblique, de toute manière. Parce que tous ces mondes, tout ce monde-là, toutes ces nations, souvent opposées pour des raisons économiques, financières, ils se font la guerre. On connaît les grandes guerres du siècle dernier. C'était pour des richesses, hein, faut pas se faire d'illusions. Hein. Alors la première chose qu'ils ont essayé de faire, les dominateurs, c'est de prendre des tableaux dans les musées et puis de voler l'argent des juifs et de voilà, tout simplement. Et puis les richesses dans les provinces, enfin dans les colonies. Le but, c'est la puissance et le pouvoir de domination. Et il y a des bombes économiques derrière tout ça. Des bombes économiques. Entendez bien le capitalisme. Je ne suis pas contre, parce qu'on en vit et on n'est pas... ça nous permet d'avoir aussi un équilibre social, de travail, etc., etc. Il y a des bienfaits, naturellement. Hein. Mais à côté de ça, on voit ce qui se passe dans les rues. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Il y a le régime qui a duré 70 ans, le régime soviétique. Et là, c'était pas de la rigolade. Tout le monde avait un logement dans le goulag, hein, parce que c'était terrible, affreux. Et ça s'est effondré. À travers ce que vous connaissez d'il y a 30 ans, le fascisme, le nazisme et autres systèmes dominateurs, et avec chacun sa religion. Aujourd'hui, vous avez les Slaves orthodoxes qui sont en train de s'entretuer. Comme nous, on n'a pas fait mieux et on est en train de critiquer, on ferait mieux de se la fermer, excusez-moi, parce que c'était les catholiques, c'était les protestants, c'était ceci et cela. C'est terrible, hein, une chose pareille. Je parle librement. Hein. Peut-être que vous n'allez plus pouvoir m'entendre après. Hein. Mais bon, je rentre en politique, je me présente en 2027. Bon. Avec chacun sa religion, parce que la religion rentre en compte. Hein. Eh oui, l'union des religions avec les États, avec les pouvoirs, avec les politiques. Ça a toujours marché, nous, chez nous. Hein. Puis ailleurs également. Les orthodoxes, le christianisme, catholique et protestantisme qui se sont partagés. Finalement, le nord de l'hémisphère nord, en quelque sorte. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam. Sans oublier la laïcité que nous avons maintenant depuis la Révolution française. Où Dieu, tout simplement, eh bien, est banni. C'est une nouvelle religion. Une nouvelle religion, et on peut en dire d'autres, hein. Ça c'est clair. Hein. Oui, la Bible est un livre de géopolitique, qu'on le veuille ou pas. Bon, un terme moderne, mais... Et la Bible est en avance sur les événements cruciaux, et elle aura toujours le dernier mot, comme nous l'avons lu, car il y a la prophétie de la petite pierre. Et ça va venir. Ça va venir. Il y a la pierre d'achoppement où l'incrédule, le révolté, l'anti-Dieu va finalement achopper dessus, il va tomber. C'est ce que Jésus nous dit d'ailleurs dans une de ses paraboles. Voilà, je ne sais plus laquelle, ça ne me revient pas maintenant. Mais, et puis, il y a la pierre de langue sur laquelle les choses vont se réaliser. Moi, je ne suis pas maçon, mais... Je pense que dans toute construction qui se respecte, il y a toujours une pierre de langue, hein, quelque chose comme ça. Non ? Ça a changé, hein, les artichèques, Oh, je confondais avec artichaut. Donc, tout repose. Bon, c'est ça, moi, je suis d'un autre temps. Hein. Voilà. Voilà. Et se réalisera sans faute. Et j'en arrive maintenant à la fin. Ouais. Il y aura toujours la version de Goliath et de David. Et un nouvel empire, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, eh bien, ce profil, c'est l'Europe. Et successivement, il y a eu les Césars romains, je vous l'ai dit, hein, 500 ans. Il y a, sur le plan religieux, il y a ce que l'on appelle la Rome, demeurée capitale religieuse du christianisme, et à sa tête, un prince internation que l'on appelle le pape. J'ai rien contre lui, hein. Mais c'est pourtant une sommité dans le monde où tous les chefs d'État vont le voir pour faire allégeance. De nouveaux rois se succèdent les uns après les autres avec l'obsession viscérale de toujours faire l'unification européenne. On n'en a jamais parlé autant depuis le début de la guerre en Ukraine actuellement. Allez, on se serre les coudes, on partage un petit peu nos jouets là pour finalement être plus fort. L'Union européenne, dans tous les domaines que vous voulez. Parce que ces puissances sont tentées, et ont déjà tenté sans succès, tels que Charlemagne, tels que Charles Quint, qui est venu quelques siècles plus tard, tels des Napoléons, des Hitler, et les nouveaux dictateurs des temps présents, dont le maître mot est celui-ci, dominer. On reconstruit la statue de siècle en siècle, on reconstruit la statue à la tête d'or jusqu'au pied d'argile. Mais là, maintenant, nous sommes vraiment en bas. Hein. Mêlés de fer et d'argile. Essayez de faire un vase, essayez de faire un pot avec mi-fer, mi-argile. Vous allez voir, ça ne va pas tenir longtemps. Hein. Ça ne pourra pas. Parce que c'est antinomique, hein, tout ça. Ça peut pas fonctionner. Et c'est une funeste illusion de faire d'une mosaïque de nations une puissance mondiale économique, suprématie militaire, sur près de 500 millions d'Européens. Parce que maintenant, on est en train de faire rentrer des pays. Hein. 500 millions. Hein. Oui, c'est à peu près la capacité. On est plus nombreux encore maintenant que les États-Unis. 450 millions, quelque chose comme ça, 400 millions, à peine 400 millions les États-Unis. Et nous sommes dans ce petit monde de 8 milliards d'hommes, voilà, la démographie mondiale. Être le roi de la Terre, voilà. Ils ont tous rêvé de tout cela, mais ils ont tous mal fini. Ils ont vu qu'ils reposaient sur des pieds qui n'étaient pas solides. Écoutez bien, la prophétie nous dit ceci. « Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Union improbable de la force et de la faiblesse, mélange du totalitarisme et de la démocratie. Cet âge d'or, comme le laissent pressentir, eh bien, certaines écritures, que finalement, c'est irréalisable. » Eh oui. L'Europe, peut-être, dans sa gestion et tout ça, peut nous apporter des choses. Ça, c'est sûr. On ne va pas critiquer pour critiquer. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y aura jamais d'union. Ça ne tiendra pas. Ce n'est pas possible. Ainsi, le temps des royaumes de la terre prendront fin. Alors viendra le royaume éternel de Dieu. Seigneur, viens, reviens bientôt. Seigneur, nous soupirons après toi, parce que le monde, la terre, l'humanité ne peut plus vivre comme elle vit, soit dans la cruauté du sang, ou soit dans les dépravations comme nous avons dans nos pays occidentaux. Je ne suis pas un radical dans tout ça. Hein. Non. Mais il y a quand même des réalités. Une petite pierre lancée sans le secours d'aucune main, nous dit la parole, a brisé subitement tous ces royaumes, les uns après les autres, et celle-ci est devenue... Cet amas, ces ruines sont devenues une grande montagne et elle a rempli la terre entière à partir d'une petite pierre. Toute petite pierre. Et c'est l'emblème du Messie pour les Juifs, c'est l'emblème du Messie et du Sauveur pour le monde entier, revenu juger l'humanité rebelle, obstiné et incrédule, assoiffé de pouvoir et de gloire terrestre. Ainsi va le monde. C'est le premier titre que j'ai donné. Ainsi va le monde. Et on ne va pas s'arrêter. Parce qu'on y croit. On y croit que l'homme va pouvoir devenir Dieu sur la terre. Ainsi va le monde vaincu. Parce qu'il est vaincu là. Après le texte que nous avons lu, ça c'est sûr. Et hommage est rendu à Christ. On lui donnera, nous dit la parole, la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples le serviront, sa domination est éternelle, et son règne ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Jésus-Christ, que nous adorons depuis 2000 ans, attendu pendant des siècles et des siècles dans l'Ancien Testament, est toujours le même. Qu'il soit l'ange de l'éternel, si l'on veut lui donner une symbolique, hein, ou ce Christ que nous connaissons, qui s'est révélé dans l'Évangile il y a 2000 ans, eh bien, il se prépare maintenant à revenir en gloire. Et il va revenir en gloire. Petite pierre. Une petite pierre. Alors moi, je voudrais m'adresser aux évangéliques d'abord. Enfin, en priorité. Parce qu'on peut parler des religions, hein. Bon, on sait ce qu'elles sont. Je dis, mes frères et sœurs, attention à nous. Parce qu'il se lève des courants dans les milieux évangéliques, c'est plus l'évangile. Hein. Ça, c'est clair, hein. C'est clair, plus l'évangile. Un aspect était observé, c'est dans le monde évangélique déchristianisé. On connaît la parole, on connaît la lettre, mais on n'a plus rien à faire de l'esprit. Mondanisé, aujourd'hui, on peut se servir de l'évangile et le mettre à toutes les sauces. De tout ce qui peut être odieux, scandaleux, impudique, tout ce que vous voulez. À commencer par l'argent. Un monde paganisé, parce que le Dieu, c'est le Dieu argent, quoi qu'il en soit. Selon les apparences trompeuses, car la parole prophétique déclare ceci, ce n'est ni par la force, pensez à la guerre, ce n'est ni par les conflits entre empire et empire, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais Jésus nous dit, et ça c'est le cœur même de notre confession évangélique, c'est par mon esprit. Par mon esprit. L'homme s'abandonne entre les mains de Dieu. Et on ne se sert pas de Dieu pour faire ce que nous avons envie de faire. Conclusion. Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il dominera la terre. Ce beau passage que vous connaissez, je pourrais presque vous le restituer tout simplement, et vous pourriez le restituer tout simplement de mémoire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ça vient bien ce matin-là, hein? Qui nous a cru une chose pareille? Parce que là, nous avons mis ça sous un panoramique, vous comprenez? On a une vision panoramique dans ce que nous avons fait, hein? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, la petite pierre s'est élevée devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui, après 2000 ans de christianisme et d'évangile. N'est-ce pas la petite pierre qui semble au monde si insignifiante? Eh oui, c'est ça. Une dernière citation, si vous me le permettez. Un ultime avertissement pour les chrétiens que nous sommes. Alors se réalise la parole prophétique dans Philippiens chapitre 2 et verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. » L'humiliation, l'humilité, mais pour être relevé, dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous voulons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu, il revient, et il va remettre de l'ordre dans le monde entier. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et gardez ces paroles, vous les trouverez sur Internet, vous les trouverez sur Spotify, tout ce que vous voudrez. C'est diffusé. Si vous voulez les réécouter, eh bien vous avez le choix. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu nous convies à la communion ce matin. La communion entre nous, assis sur nos chaises, dans ce lieu, ça c'est une chose. mais tu nous convies aussi dans ta communion à travers le pain et le vin, Seigneur, à travers ta parole qui nous rappelle en effet que Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance sur cette terre, et la vie éternelle. Merci pour ta parole. Visite mes frères et sœurs. Renouvelle-nous dans la pensée, Seigneur du monde, dans quel monde nous vivons, parce que nous savons que c'est ainsi depuis des temps immémoriaux, et qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus revient bientôt. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.